Orange, cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption, it's now.
Ces dernières nouvelles du mois de juin vous sont présentées par le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense. Les données sont basées sur des discussions collectées et croisées provenant de divers groupes activistes sur les canaux Telegram. Voici notre analyse des enquêtes. Dans un contexte de tension géopolitique, cette synthèse passe en revue les campagnes activistes de juin 2026. Leurs cibles et leurs méthodes opérationnelles.
Et juste avant qu'on plonge vraiment là-dedans, je dois faire une petite précision, histoire de bien poser le cadre de notre analyse d'aujourd'hui.
Ouais, bien sûr, vas-y.
En fait, tous les éléments qu'on va aborder reposent exclusivement sur des enquêtes OSINT, donc du renseignement en source ouverte, et d'origine strictement cyber.
Ok, donc on se base vraiment sur des faits techniques, pas sur des rumeurs, quoi.
C'est ça. On analyse des revendications brutes, des fuites de données, des discussions sur des forums obscurs. Et c'est super important de rappeler à nos auditeurs que cette émission rapporte les actions des pirates de manière purement factuelle et neutre.
Totalement neutre, oui.
Voilà. On ne prend jamais parti, qu'il s'agisse d'idéologies politiques de gauche, de droite ou de conflits territoriaux. Notre but n'est pas de valider leur discours. Notre mission, c'est vraiment de décoder le bruit numérique.
Exactement. Et le but de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre comment des événements du monde réel déclenchent des guerres invisibles sur nos infrastructures. Parce que tu sais, on imagine souvent la cybersécurité comme un truc très abstrait, mais là, on parle de conséquences physiques.
Ah bah, complètement, physique.
Genre, imagine un instant te réveiller pour découvrir qu'un groupe d'inconnus a pris le contrôle du chauffage des réserves alimentaires de ton pays. Ou qu'ils ont coupé l'irrigation de milliers d'hectares de culture, tout ça à cause d'une réunion politique à l'autre bout du monde.
Et le pire, c'est que c'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce qui s'est passé en juin. Le cyberespace aujourd'hui, c'est le reflet immédiat et souvent amplificateur des tensions géopolitiques mondiales.
Du coup, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres ce mois-ci? Parce que l'activité a explosé, non?
Oh que oui. Juin 2026 a été un mois sous haute tension. D'abord, on a eu le sommet du G7 qui s'est tenu du 15 au 17 juin à Évian-les-Bains, en France.
Ah oui, le fameux G7.
Voilà. Et la présidence française de ce sommet a agi comme un aimant gigantesque pour les attaques. Mais c'est pas tout. Il y a aussi eu les réunions des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles.
Ceux qui discutaient de l'intégration de l'Ukraine, c'est ça?
C'est ça, l'intégration aux standards de l'OTAN et les livraisons d'armes à Kiev. Et pour les pirates, ces réunions sont citées comme la justification principale de leurs actes. Et puis, il ne faut pas oublier les tensions au Moyen-Orient.
Avec l'opération Arrow of God, c'est ça?
Exactement. Cette opération a entraîné des fuites de renseignements énormes impliquant Israël, la Turquie et l'Azerbaïdjan.
C'est fou. En t'écoutant, j'ai vraiment l'impression de voir des manifestations numériques, tu vois. Tout comme des foules se rassemblent physiquement pour bloquer les rues lors d'un G7, là, les activistes convergent virtuellement pour paralyser les infrastructures du pays hôte.
C'est une excellente analogie. Sauf que les dégâts sont beaucoup moins visibles à l'œil nu, mais potentiellement plus dévastateurs.
Mais du coup, ça soulève une question. Est-ce que ces attaques, c'est juste de simples nuisances, genre un feu de poubelle sur un rond-point, ou est-ce que ce sont des véritables actes de guerre géopolitique?
Ah, on a clairement dépassé le stade de la nuisance, hein. Pour frapper fort, aujourd'hui, les pirates ne travaillent plus seuls. L'union fait la force de frappe. On a des acteurs dominants qui se partagent le terrain.
Genre qui? C'est qui les gros bonnets de ce mois de juin?
Le groupe le plus prolifique s'appelle No Name 05716. À eux seuls, ils sont responsables d'environ 33% des attaques revendiquées.
33%? Mais c'est énorme pour un seul groupe!
Ouais, c'est massif. Et ils ne font pas ça tout seuls. Ils sont souvent épaulés par un réseau appelé le projet d'IOSIA et par un pirate super actif qui se fait appeler Palach Pro.
D'accord. Mais ils font quoi exactement ces gars-là? C'est eux qui volent les secrets d'État?
Alors, non, pas vraiment. Eux, c'est plutôt l'attaque de masse. Pour les choses plus subtiles, il y a un autre groupe qui s'appelle Cardinal. Eux, c'est vraiment l'élite de l'infiltration furtive et de l'exfiltration de documents classifiés.
Ah, d'accord. Ils ont chacun leur spécialité.
Totalement. Cardinal, eux, ils ont ciblé des institutions majeures comme l'OTAN ou le BND, les services de renseignement allemands.
Attends, c'est fascinant. On dirait littéralement des fusions-acquisitions d'entreprises du CAC 40, mais pour des cybercriminels.
C'est exactement le modèle, oui.
Ils mutualisent leurs ressources humaines, leurs outils logiciels, tout ça pour accroître leur part de marché de la menace. C'est structuré comment, ces alliances-là?
On observe des coalitions très stratégiques. Par exemple, côté russe, on a une alliance forte entre Cardinal et la Russian Legion.
L'élite avec l'armée de masse?
Voilà. Et de l'autre côté du globe, en Asie du Sud-Est, ça bouillonne aussi. Ils créent des alliances hyper structurées avec des noms comme, attends, je reprends mes notes, Digital, CyberDark, EcoXSky, MP Group.
Waouh, ça fait très corpo comme nom.
Brotherhood Kapung Indonesia, qui s'allie avec la Neura Self Cyber Team. Et pour revenir en Europe, on voit des groupes comme la Dark Storm Team et No Name 05716 qui coordonnent des frappes conjointes.
Des frappes conjointes. Genre, ils attaquent le même truc au même moment?
C'est ça. Ils ont monté des trucs comme l'opération Luxembourg ou l'opération France. Ils frappent ensemble pour maximiser l'impact.
Ok, donc on a des conglomérats criminels surpuisants. La question logique qui suit, c'est ils visent quoi avec tout cet arsenal? Quel secteur paye le prix fort?
Tous les secteurs vitaux y passent. L'agriculture, par exemple, avec des attaques sur les systèmes d'irrigation et le stockage des récoltes.
L'agriculture, c'est terrifiant.
Ouais, et les transports aussi. La SNCF a été touchée, des compagnies aériennes régionales françaises, les aéroports de Los Angeles et même des ports britanniques.
Rien que ça. Et l'énergie, j'imagine qu'ils adorent l'énergie.
Évidemment. EDF a été ciblé, ainsi que des régulateurs européens comme l'ISER. Ajoute à ça les télécommunications comme Telecom NL, l'industrie de la défense avec les fabricants de drones européens et bien sûr la finance.
D'accord, mais il y a un truc que j'ai besoin de comprendre. Il y a une différence fondamentale entre une attaque par déni de service, le fameux DDoS dont on entend tout le temps parler, et ce que tu mentionnes sur les pompes agricoles.
Tout à fait. L'impact n'a rien à voir.
Parce que pour moi, une attaque des DOS, c'est un peu comme bloquer la porte d'entrée d'un supermarché avec une foule immense. Les gens peuvent plus rentrer, c'est relou, mais le magasin va bien. Alors que là, ce que tu décris, c'est autre chose.
C'est clair. Ce qu'on voit exploser, ce sont les compromissions profondes des systèmes SIADI ou systèmes de contrôle industriel.
Et ça, en gardant mon analogie, c'est comme s'infiltrer par la fenêtre arrière pour descendre à la cave, couper le chauffage et laisser pourrir tous les stocks du magasin.
C'est la métaphore parfaite. Ils ont eu un accès direct à des pompes centrifuges, à des contrôles climatiques, à des chaudières électriques. Ils peuvent littéralement casser du matériel à distance.
C'est fou. Comment de tels systèmes industriels peuvent être aussi vulnérables?
Et attends, c'est pas le pire. On doit absolument parler de l'opération Broken Byte.
Ah oui, j'ai vu ça dans tes notes. C'est l'histoire des caméras, non?
Ouais. Ils ont piraté 50 000 caméras de vidéosurveillance en Europe et en Ukraine. Et ils n'ont pas juste regardé les images en direct.
Ils ont fait quoi?
Ils y ont intégré une intelligence artificielle pour capturer et classer les visages, les couleurs de vêtements et même les plaques d'immatriculation en temps réel.
Attends, vraiment? 50 000 caméras transformées en réseau d'espionnage automatisé? Mais c'est digne d'un film d'espionnage!
Exactement. Et ça nous amène à la cartographie de ces frappes. Puisque les cibles sont définies, comment ça s'est matérialisé géographiquement à travers l'Europe en juin?
J'imagine que la France a pris cher avec le G7?
Massif. EDF, le Sénat, plusieurs mairies, des aéroports haïtiens et même le musée de l'automobile à Mulhouse.
Le musée de l'automobile? Mais pourquoi?
Souvent, c'est juste de l'opportunisme. Des concessionnaires Renault et Volkswagen ont aussi été touchés. D'ailleurs, un groupe algérien, Lunarisec, a attaqué des sites gouvernementaux français comme Humanum, sous couvert de, je cite, « vouloir les aider en pointant leurs failles ».
Ah oui, le fameux coup du « je te pirate pour ton bien ». Sympa. Et dans les autres pays?
Aux Pays-Bas, ça a pris une tournure très concrète. Ils ont pris le contrôle total des entrepôts agricoles de l'entreprise Matchap, Pic et Zeden.
C'est eux qui stockaient des patates, c'est ça?
Ouais, ils ont carrément menacé de geler des centaines de tonnes de pommes de terre en piratant les contrôles thermiques. Ils ont aussi ciblé le réseau de transport public néerlandais.
Geler des patates pour faire plier un gouvernement, c'est surréaliste. Mais en lisant tes données, il y a un truc qui m'a fait tiquer sur l'Espagne.
Tu penses au système d'irrigation de la Mancha?
Oui, ça c'est énorme. Mais je pensais plutôt au panneau de contrôle d'une station de lavage auto, la marque Secato. Pirater un panneau de lavage auto, ça semble presque comique, non? Pourquoi s'embêter avec ça?
Je comprends que ça fasse sourire, mais c'est une vraie démonstration de force systémique. En fait, il montre que si la sécurité de base de ces équipements du quotidien est nulle, alors tout le reste l'est aussi.
Genre, si on peut hacker ton lavoto, on peut hacker ton usine.
Voilà, c'est le même principe. En Italie, où ils ont infiltré les caméras de salles de jeu, tu sais, au-dessus des machines à sous, et de petites pharmacies de quartier.
Ok, le message est clair. Et l'Allemagne dans tout ça?
Des menaces directes concernant leur logistique militaire. Le groupe Cardinal a carrément publié des documents internes du renseignement allemand, le BND, concernant l'armement fourni à l'Ukraine.
Ah, on rigole moins là.
Oui, et au Luxembourg et au Royaume-Uni, on a vu la paralysie de compagnies ferroviaires, des autorités financières et le ciblage direct de fabricants de drones comme Exxon France, qui est basé au Luxembourg.
Bon, la géographie de ces attaques, ça illustre quand même une automatisation de masse. Comment techniquement ils arrivent à un tel volume de pénétration partout en même temps ?
Les méthodes sont ultra optimisées. Ils utilisent des plateformes OSIN sur le réseau Tor pour collecter anonymement des renseignements sur toutes ces infrastructures occidentales.
Donc ils font leur devoir de recherche avant de taper.
Exactement. Et ensuite, on assiste à ce que j'appelle la franchisation des attaques, notamment avec le projet Didi et OSIA.
C'est-à-dire ?
Ils vendent des licences de piratage ? Presque. Ils distribuent leurs outils et des volontaires utilisent leurs propres connexions pour attaquer l'ennemi. En échange, ils sont récompensés en crypto-monnaie.
Non, mais c'est le capitalisme poussé à l'extrême.
Et tout ça est géré comment ?
Avec une automatisation agressive via des robots télégrammes. Par exemple, le bot @dynet, géré par le réseau Dynet. Les volontaires cliquent, le bot coordonne et paf, l'attaque part.
Mais tout ça, ça demande des cibles vulnérables. Est-ce qu'ils utilisent des failles super complexes ?
Et c'est là que ça devient embarrassant pour nous. C'est l'exploitation pure et simple de l'incompétence.
Aïe.
Prenons le cas de l'EICER, l'agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie.
Ça sonne comme un truc hyper sécurisé, en théorie. Mais le groupe Cardinès s'est vanté de ne même pas avoir utilisé de faille inédite, tu sais, un 0D qui coûte des millions sur le marché noir.
Ils ont fait comment alors ?
Ils ont simplement utilisé une clé d'accès laissée sur le réseau par les ingénieurs de l'agence eux-mêmes.
Sérieux ?
Ouais. Grâce à ça, ils se sont installés dans le système pendant 14 jours, en toute discrétion. Ils ont extrait la liste des 11 000 employés et des opérateurs énergétiques nationaux.
C'est l'équivalent numérique de laisser les clés de sa maison sous le paillasson avec une pancarte clignotante.
C'est exactement ça.
Franchement, ça pousse à s'interroger sur l'état réel de la cybersécurité protégée européenne. Mais ça m'amène à la question la plus troublante de notre analyse, je trouve. Le pourquoi.
Les motivations, ouais.
Quand tu lis leurs messages, ils ont un ton narratif très dramatique, hyper théâtral. C'est quoi la psychologie derrière tout ça ?
C'est de la guerre psychologique et de l'humiliation pure. Le groupe Cardinal, par exemple, ils utilisent des ultimatums chronométrés. Lors de l'opération Chronos, ils ont laissé 48 heures, puis 24 heures aux victimes, avec des phrases choc du genre « Chronos ne détruit pas, il efface ».
Waouh ! Ambiance fin du monde.
Totalement. Et contre l'Allemagne, ils ont lancé l'opération 1945, rappelant bien lourdement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour exiger l'arrêt des livraisons d'armes.
C'est ce que j'appelle du sadisme numérique. Ce n'est pas seulement du sabotage, c'est du théâtre de rue pensé pour humilier publiquement les gouvernements occidentaux et instaurer de la paranoïa chez les citoyens normaux.
Et ils adorent se moquer de nous. Les pirates de No Name 05716 se sont ouvertement moqués de la qualité d'image des caméras françaises qu'ils ont hackées. Ils la qualifiaient de muséale, tellement c'était flou.
La honte, quoi.
Ouais, ils regardaient les mécaniciens fumer dans les entrepôts Renault et ironisaient sur notre fameuse sécurité européenne.
Mais dis-moi, est-ce que c'est que de l'idéologie, hein ? Parce qu'on dirait des fanatiques, là.
En façade, oui, les motivations politiques dominent publiquement. Anti-russophobie, représailles du G7, tout ça.
Et en coulisses ?
En coulisses, c'est le lucre, la revente. Sur des forums obscurs comme Bridge Forums, on les voit vendre des accès web, des shells et des bases de données entières.
Des données de qui ?
Des bases de données volées en Indonésie, au Chili, et même les dossiers de personnel militaire de Singapour.
Ah ouais, donc ils font de la grande politique le jour, et le soir, ils revendent tes données pour se remplir les poches.
C'est ça. Ça prouve un fort opportunisme financier. Le fanatisme a ses limites quand il s'agit de faire de l'argent.
Bon, si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, la convergence de toutes ces données montre une évolution majeure du paysage de la menace ce mois-ci.
Ah, c'est clair. On est passé d'un activisme de nuisance, où on s'amusait à bloquer des sites web pour la forme, à une vraie guerre d'usure psychologique.
Avec de l'espionnage de masse, comme cette IA branchée sur les caméras, et surtout ces menaces physiques sur nos infrastructures critiques.
L'agriculture, l'énergie, les alliances se mondialisent à une vitesse folle. Et le constat le plus dur, c'est que le principal danger n'est souvent pas la sophistication de l'attaque.
C'est notre propre négligence.
Exactement. La négligence des cibles elles-mêmes est leur meilleure arme.
C'est une conclusion effrayante. Mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais formuler un dernier constat, une petite réflexion finale pour nos auditeurs ?
Bien sûr. Je dirais qu'il y a de quoi méditer. À l'heure où des volontaires anonymes, payés en crypto-monnaie, peuvent prendre le contrôle du chauffage de nos réserves alimentaires ou utiliser l'intelligence artificielle pour nous suivre via la caméra de la pharmacie du coin, est-ce que la notion de cybersécurité nationale a encore un sens ?
C'est une excellente question.
Ou bien est-ce que la sécurité est désormais la responsabilité individuelle de chaque citoyen et de chaque petit propriétaire d'entreprise ?
Eh bien, ça donne vraiment à réfléchir. Merci infiniment pour tous ces éclaircissements et cette analyse pointue. On rappelle à nos auditeurs de rester vigilants, mettez vos systèmes à jour et surtout, ne laissez pas vos clés de maintenance sous le paillasson. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les données.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange, cyberdéfense.